Merci Patrick, et je trouve merci à tous les orateurs de cet après-midi, parce que vous voyez que le questionnement concernant les mutilations sexuelles s'est un petit peu déplacé, et le regard que l'on avait sur l'autre, on est obligé de le porter sur nous-mêmes. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui restent. Donc oui, je vous encourage à lire le texte de Nida Bader est assez, que vous trouverez facilement sur Internet. Si vous voulez bien, on va lancer le débat concernant tout ce que vous avez entendu cet après-midi. Il y a une question, oui, vous pouvez peut-être parler fort, allez-y.
Merci. Je voulais juste faire une remarque sur les mariages forcés et tout ce qui se passe. On a beaucoup parlé d'Afrique. On a beaucoup parlé d'Île-de-France. J'ai vécu pratiquement 6 ans à Mayotte, 101e département français, avec des mariages forcés en veux-tu en voilà. Des viols, on était pratiquement réquisitionnés tous les jours pour des viols. De l'inceste, n'en parlons pas. Du gavage, qui existe aussi. Et c'est donc le 101e département français. Donc je voulais juste rendre hommage à Mayotte, à toutes les Mahoraises qui se sont battues pour défendre, parce qu'il y a eu quand même au ministère des délégués au ministère du droit des femmes, Nafissa Tha, entre autres, qui s'est beaucoup battue, qui a arrêté de se battre au bout de 10 ans, parce que socialement parlant, il y a des difficultés après au niveau du groupe social masculin par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, etc. Donc à un moment donné, toutes ces femmes courageuses comme Kala, comme un tas d'autres, elles ont été obligées, entre guillemets, de se ranger pour essayer de laisser la place à d'autres pour parler de tout ça. Mais je voulais rendre hommage à toutes ces femmes et dire qu'à Mayotte, ça existait tous les jours.
Merci. Oui.
Sur le même sujet, et parce que nous montrons du doigt des continents à l'extérieur de l'Occident, n'oublions pas que nous sommes tous issus d'antécédents et d'ancêtres qui, eux, ont subi le mariage forcé au cours de l'histoire européenne, dans la monarchie absolue. Il faut savoir que la femme n'était pesée que par la valeur de sa dot ainsi que de son ventre, et qu'elle ne vivait en moyenne jusqu'à 22 ans et qu'elle avait plus de dents à 18 ans. C'est pour ça que tous les portraits illustrés à cette époque du 12e, fin Moyen-Âge, jusqu'au 18e, montrent des femmes qui ne sourient pas parce qu'elles n'avaient plus de dents dès 18 ans. C'était une grossesse après une autre. Elles étaient emprisonnées chez elles par leur mari qui, eux, prenaient le droit d'avoir toutes les maîtresses affichées qu'ils souhaitaient, dont certains descendants aujourd'hui en sont les fruits, n'est-ce pas ? Et je pense qu'il est important de faire cette référence historique puisque nous en sommes tous, on ne peut pas dire victimes, mais des descendants, avant D'accord. de montrer aujourd'hui ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Merci.
Ok, merci, mais c'est bien ce que vous dites correspond bien à cet après-midi organisé par GSF, de pas uniquement regarder ce qui se passe dehors, mais ce qui se passe chez nous, et on s'aperçoit des ressemblances gigantesques. Est-ce qu'il y avait d'autres... Là-bas, oui.
Allô, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est aussi important de regarder ce qui se passe chez nous. Je pense que, par exemple, on devrait réfléchir et demander la permission avant de réaliser n'importe quel acte sur le corps d'une femme. Je pense notamment aux situations d'accouchement, aux situations de suivi obstétrical. Je suis étonnée, mais on reviendra sûrement, qu'on n'ait pas parlé des épisiotomies effectuées en routine en France. Heureusement, ça s'est beaucoup amélioré. Je ne parle pas des épisiotomies qui sont nécessaires et qui sont dans un faible pourcentage, mais combien de femmes primipares ont été allègrement découpées, et c'est pas à l'étranger, ça concerne bien nos pratiques à nous. Et puis une deuxième chose, je trouvais quand on parlait de, enfin quand on a montré les données des personnes qui ont été, enfin de la personne qui a été opérée, moi je trouvais ces données très très beaux tous les deux. Et je pense que le médecin lui-même a, enfin ne se rend peut-être pas compte qu'il a ses propres références esthétiques et que ça c'est pas non plus une norme médicale qui serait partagée par toute la, enfin par les médecins quoi. Et donc chacun doit tenir compte de sa propre subjectivité et le médecin n'en est pas du tout exempt.
Voilà. Le chirurgien esthétique ne se place pas au-dessus, c'est-à-dire que c'est toujours facile de dire aux autres, monsieur, vous avez qu'à vivre comme ça, ou madame, c'est pas grave, vous avez qu'à vivre comme ça. C'est toujours le problème de l'enfant avec l'oreille décollée, quoi. Un enfant qui arrive à 10 ans avec des oreilles décollées. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie fonctionnelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, mon petit gars, hein, tu vas taper sur la tête et puis tu vas dire, tu vas être la risée de l'école. Peut-être que c'est bien, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pratiquement pas possible actuellement ou difficile pour un enfant de vivre avec des oreilles décollées. Moi, je suis pas spécialement pour opérer les oreilles décollées, mais quand vous êtes confronté à la problématique d'un enfant qui est en larmes et qui vient vous voir pour des oreilles décollées, vous, ça vous dérange pas? Vous, ça vous empêche pas de vivre. Le problème, c'est qu'il faut aussi regarder l'autre. Et je crois qu'autant il faut pas être dogmatique sur le fait qu'on doit tout opérer. Je crois que non plus il faut pas être dogmatique dans le sens inverse et dire, il faut rien opérer. Madame, vous avez qu'à vivre comme ça. C'est pas grave. Vous avez des petits seins. Vous avez des oreilles décollées. Donc, je veux dire, le médecin n'impose pas sa normalité. Enfin, je crois pas.
Non, je disais par exemple sur la taille des seins qu'on voyait se dessiner vos propres préférences. Et que c'était pas du tout quelque chose de normatif.
Oui.
Enfin voilà.
Oui, tout à fait. Mais je veux dire, si vous voulez, quand on choisit les volumes, par exemple, ce n'est pas le médecin qui détermine les volumes. On a ce qu'on appelle des fantômes. Hein, et les femmes mettent des implants mammaires qui vont de 80 à 500 cc. Moi, 300 cc, j'ai rangé les boîtes. Mais je veux dire, les femmes font des essais devant la glace et c'est elles qui déterminent le volume. Et si, par contre, je me fixe des limites, c'est-à-dire que si je trouve que le volume ne correspond pas, si une patiente mesure 1m60 et qu'elle veut des bonnes idées, je dis, écoutez, non, je ne ferai pas. Voilà, mais je veux dire, le médecin, normalement, ne doit pas imposer effectivement sa vision des choses.
Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je veux bien dire encore un mot,
oui.
Gérard aussi.
Patrick, oui. Oui, excuse-moi.
Il est bien clair, j'espère que vous n'avez pas perçu, par exemple, ce que j'ai dit, comme une sorte de stigmatisation ou de diabolisation de la profession du chirurgien esthétique. Ce n'était absolument pas le but de mon propos. Il s'agit de savoir... Le médecin, bien entendu, il est confronté à une demande. Alors, bon, il fait au mieux avec cette demande. Moi, j'ai essayé d'analyser les racines d'où émerge cette demande et de l'interroger d'un point de vue qui est celui du moraliste. Et c'est ça n'a pas forcément à être le problème du chirurgien. Ça peut l'être, mais ça n'a pas forcément à l'être. Et ça ne relativise en rien tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Si j'ajoute, vous me permettrez, c'est pour prendre un tout petit peu encore de hauteur et pour inclure dans notre champ de vision un aspect qui n'a pas été évoqué. Je pense que je ne suis pas le seul homme dans la salle à recevoir actuellement, mais depuis 10 ans ou 13 ans, sur ma boîte professionnelle et sur toutes mes boîtes de messagerie électronique, 10 courriers électroniques non sollicités par jour qui me proposent une augmentation de la taille de mon pénis.
Voilà, c'est exactement
etc.,
la question.
Etc.
Voilà. C'est exactement la question que je voulais
etc.,
vous poser.
Etc. Donc la violence des représentations sociales fantasmatiques, elle s'exerce aussi sur les hommes.
Oui, mais justement, c'était exactement ma question, parce que le parallèle qu'on fait, mutilation... génitale féminine, on a fait un parallèle entre l'excision et la chirurgie esthétique vulvaire, mais au fond, si on doit faire un parallèle complet, il faut aussi introduire la totalité finalement de la demande vis-à-vis de la chirurgie esthétique, et je vous posais la question des hommes, des jeunes hommes actuellement, est-ce qu'il y a aussi un engouement pour la chirurgie pénienne dans les sociétés occidentales? Et si oui, est-ce qu'il y a une correspondance avec les hommes qui sont dans des sociétés où l'excision et la mutilation génitale féminine s'exercent ?
Juste donner un petit éclairage, non pas en ce qui concerne la chirurgie, mais par exemple par rapport à la transformation du corps, le rasage par exemple. Aujourd'hui, il est tout à fait à la mode chez les adolescents et les jeunes hommes de se raser intégralement également le corps, les jambes, le torse, voilà, de se parfumer de plus en plus, de se mettre de la crème, bref, d'avoir une culture esthétique de leur corps qui se rapproche de celle qu'ont les jeunes filles du même âge. Pareil au niveau des piercings, du tatouage, donc là c'est beaucoup moins sexué. Je pense qu'il était important, nous avons fait ce rapprochement parce qu'on parlait aussi de notre vision par rapport aux mutilations génitales féminines, et donc il était important de voir ce qui nous arrive depuis très peu d'années en France par rapport à ces chirurgies du sexe féminin. Mais je pense que les chirurgies du sexe masculin existent depuis bien plus longtemps, et je pense que mon voisin de gauche peut peut-être en parler mieux.
Alors je vais être clair, concernant les demandes d'augmentation pénienne, je n'en fais pas et j'interdis de le faire dans le service, parce que je pense que pour le coup ça ne sert à rien et que le problème se situe à un autre niveau. Concernant les nymphoplasties, je rappelle que les nymphoplasties, ceux qui en font le plus, ce ne sont pas les chirurgiens esthétiques, mais ce sont les gynécologues, d'accord ? Et que actuellement, je n'en fais que une ou deux par an pour des patients qui ont des mycoses récidivantes et qui ont des anti-inflammatoires qui peuvent effectivement justifier un problème fonctionnel. Après, concernant le docteur Abbé, bien connu sur la place de Paris, qui écrit dans Closer, je veux dire, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, mais je crois qu'il y a les chirurgiens esthétiques et les autres.
Donc, vous voulez prendre la parole ? Oui, allez-y, fort.
Vous m'entendez ? Ma question s'adresse à madame Kadi Kouaïta et Isabelle Gillette-Faye à propos d'une histoire qui était prise dans un journal qui a fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux, et je voulais savoir si vous avez entendu parler de ce type d'acte et d'histoire. Ça concernait une petite fille, donc qui a fait l'objet, une petite pakistanaise qui a fait l'objet d'un mariage forcé au Pakistan. Et l'histoire, c'était que la nuit, j'ose même pas dire la nuit de noces, parce que je dirais, enfin la nuit de son viol abusivement appelé un mariage, comme le mari n'arrivait pas bien évidemment à ses fins puisqu'elle était trop petite et trop étroite, il l'a ouverte avec un couteau. Et elle est décédée elle est morte, on l'a retrouvée le matin dans son sang, et la famille, paraît-il, était à côté, buvant du thé, c'était le mariage. Et je voulais savoir si vous avez entendu parler de choses comme ça, au Pakistan ou d'autres pays, de petites filles qui sont non seulement donc violées, évidemment, leur nuit de noces, mais en plus ouvertes au couteau et qui étant décédées en plus.
J'ai pas entendu parler de cette histoire, mais... Il faut se méfier des buzz sur Internet.
C'est pour ça que je pose la question.
Surtout en ce moment, bon, y a cette bon ton d'être dans l'islamophobie. Donc, bon, voilà, j'ai lu aussi des choses sur le fait qu'en Iran, maintenant, on allait pouvoir épouser des enfants de 12 ans. Enfin, voilà, il n'y a aucune réalité. Bon, à partir de là, vous allez à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le marché, vous allez trouver des espèces de petits couteaux. Ces espèces de petits couteaux, ce sont les belles familles et les hommes qui les achètent pour effectivement... pouvoir pénétrer les femmes lors de la nuit de noces, donc pour pouvoir les violer. Effectivement, oui, dans les pays où on pratique l'infibulation, il y a effectivement parfois l'ouverture de la jeune épousée ou de la jeune violée, si on puis, ça serait peut-être plus juste d'ailleurs. Effectivement, c'est le cas, ça peut arriver. Mais sur cet exemple pakistanais comme sur d'autres, il faut faire attention à ce qu'on met derrière la culture et il faut faire très attention de ce qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire des troubles pathologiques, il y en a dans tous les pays du monde. Et il y a des gens qui, entre autres, troubles pathologiques, ou parce que pris dans un système, alors là on peut être aussi dans un système plus explicatif, patriarcal, où les hommes pris en tant que groupe, pas en tant qu'individu, peuvent être amenés à avoir des comportements qu'on qualifierait de dysfonctionnants. Cet exemple-là, voilà, par exemple, c'est-à-dire que plus concrètement, l'exemple qui nous était donné tout à l'heure entre cet enfant qui a été violé et qui est morte quasiment éviscérée, la condamnation de son conjoint qui était assez faible, et le vol d'un mouton où la condamnation était très 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 haute et très très importante. Oui, on est dans des systèmes patriarcaux où il y a un système inégalitaire, mais c'est vrai que dans un pays comme la France, on a quand même une femme qui meurt tous les deux jours et demi des violences de son conjoint et de son ex-conjoint. C'est sûr qu'on n'a rien à dire et on n'a rien à envier à qui que ce soit, etc. Moi, je pars du principe, et je pense que c'est notre position en gamme, ça, c'est que, d'une part, les violences faites aux femmes sont universelles, que les réponses qui doivent y être apportées, c'est les droits, mais en termes de réflexion universelle également. C'est-à-dire, si les femmes ont des droits, elles subissent des violences sur le plan universel, mais c'est-à-dire qu'elles ont aussi des droits sur le plan universel. Donc c'est important de les faire appliquer, c'est important de les faire respecter, mais que, de toute façon, quelle que soit la culture que l'on prend, et quelle que soit la période de l'histoire que l'on prend, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, de toute façon, on est confronté à ces violences faites aux femmes et aux petites filles. Enfin, je veux dire, voilà. Après, elles prennent des modes d'expression différentes, elles peuvent aller parfois sur une violence qui va nous paraître barbare, totalement sauvage, totalement inacceptable. Mais en fait, au final, si on prend toutes ces violences, si on prend le cumul de toutes ces violences faites aux femmes, on les retrouve partout. Voilà, elles sont exactement partout et c'est pour ça qu'il nous faut réfléchir de façon globale.
Enfin, un commentaire ? Non, mais c'est Isabelle a déjà tout dit. Mais juste dire à cette dame, pour les mariages forcés, on a tout un dossier que j'ai même avec moi, mais aujourd'hui, ce n'était pas le thème. Ce n'était pas du tout le thème. Et quand vous dites aussi qu'il faut balayer d'abord devant sa porte avant de voir ailleurs, nous l'avons dit et pensé il y a longtemps, mais le problème des mutilations, c'est un autre problème. C'est un problème qui a été exécuté ici en Europe par des médecins européens sur des femmes européennes il y a quelques siècles. Vous allez sur Internet, vous trouverez tout ça. Mais les femmes françaises en particulier, je ne parlerai même pas de toute l'Europe, mais les femmes françaises se sont battues pour avoir ce qu'elles ont aujourd'hui. Toutes les femmes du monde devraient se battre pour avoir un tout petit peu de droit. Il n'est même pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de droits des femmes. On devrait tout simplement dire droits humains pour tout le monde. Hein? Mais aujourd'hui, en France, si on ne fait pas attention, tout est en train de regresser parce que le machisme devient à son comble aujourd'hui. Des jeunes garçons de 18 ans, de 14 ans dans les écoles, quand on fait des animations avec eux, quand on parle de mariage forcé, leur réponse est « Oui, mais madame, vous comprenez, c'est peut-être mieux de la marier très vite parce que sinon, elle traîne, elle porte des habits qui ne vont pas, elle traîne avec les garçons, elle porte des jupes, elle fait ci, elle fait ça. » Et elle parle de leur sœur. Ils sont capables de tabasser leur sœur parce qu'elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est pour ça que je parlais de changement de mentalité, de bousculer nos mentalités parce que sinon on n'y arrivera pas. Les mariages forcés font des dégâts énormes. Ici, en Europe, c'est des conflits de génération dans les familles immigrées. Dans les familles françaises, il y a aussi des mariages arrangés. Pourquoi on organise des rallyes ? Nous, on a... Bon, on arrête là parce que sinon...
Donc, nous allons arrêter cette discussion cet après-midi. Et avant de donner la parole à Richard Bédoc, je crois, hein, c'est lui qui fait la synthèse, je voudrais dire quand même que le point commun, c'est encore une fois ces sociétés patriarcales, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Chine, qu'elles soient en France ou qu'elles soient dans les pays anglo-saxons. Et donc, nous, on a aussi à s'interroger sur le fait de ce patriarcat et le rôle du capitalisme. Mais surtout, ce qui est important, c'est de vouloir changer cette société patriarcale. Alors, on est en train de se faire arraquer. Mais c'est pour la bonne cause. Il faut se battre contre le poids de ces sociétés paternalistes et patriarcales. C'est le travail, non pas le travail, c'est le combat des femmes, c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de tout le monde. C'est pas un combat uniquement de femmes. Donc, changer, bousculer, révolutionner, décapiter ces sociétés patriarcales. C'est clair.